Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien bonjour à tous et joyeux Noël. Donc écoutez, vous n'êtes pas dans la crèche, vous n'êtes pas avec le bœuf et l'âne, non, vous êtes dans les arènes de l'écologie avec François Delaunay et Ben Kramer. Alors aujourd'hui, dans cette journée sainte, et fériée surtout, hein, on va pouvoir aborder, continuer notre rétrospective 2024. Et bien, figurez-vous que Muriel Martin-Dupré est revenue, comme on lui avait dit la semaine dernière. Cette fois-ci, elle va nous parler du bilan des Jeux Olympiques et puis aussi des victoires des différentes associations de la Fédération Nature-Environnement, des victoires qu'elles ont pu remporter cette année sur des projets. Des projets d'infrastructure qui n'étaient pas forcément les plus attendus. Et puis nous aurons aussi un habitué de la maison, David Pierre de City Uni France, qui nous parlera aussi un moment clé de l'année 2024. Je crois que c'est le sommet de l'avenir, mais j'ai pas été tout à fait attentif quand il m'en a parlé. Et puis pour terminer, le tour des invités, on termine ce tour avec Aurélie Véronneau, qui, comme vous le savez, journaliste, une journaliste reporter, qui est revenue de Bakou maintenant, il y a bientôt un mois, et qui va nous parler de son fait 2024. Je crois que c'est du côté de la Suisse, mais bon, je vais pas déflorer le sujet. Et puis je vais surtout passer la parole à mon ami Ben Kramer, qui, je crois, a des choses à nous dire sur l'actualité.
Puisqu'on parle de climat, puisqu'on parle de changement climatique, je me suis dit, bon, qu'en est-il de l'enseignement de cette matière? Et là, nous avons un scoop, c'est que l'UNESCO, qui d'ailleurs est basée à Paris, et qui est quand même la seule agence onusienne habilitée à s'occuper des questions d'enseignement, d'éducation
et de science,
et de culture, comme son nom l'indique. Mais là, elle a publié un rapport sur où est-ce qu'on en est vraiment en matière d'enseignement au changement climatique. Alors, il y a matière à réfléchir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vraiment mobilisé leur manuel scolaire sur la question. Il y en a eu un, quand même, dont on a peu parlé en France, et qui est l'Italie. L'Italie, alors là, bravo pour eux. Dès 2020, donc il y a déjà 4 ans, ils ont décidé, par l'intermédiaire de leur ministre, d'intégrer dans les programmes scolaires 33 heures de cours pour les petits et pour les grands, mais surtout pour les petits, dédié spécifiquement au changement climatique. Donc ça c'est l'avantage pour les élèves italiens. Pour la France, c'est plus compliqué. Et on s'aperçoit que si on fait le total de tous les pays du monde, il n'y en a que 30% en tout cas, qui dispose vraiment d'une stratégie nationale en matière d'éducation au changement climatique.
Ben, 30%, ça fait quand même 60 pays.
Ça fait quand même 60 pays, merci. Mais alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur les échafaudages de ce rapport. Parce qu'ils ont quand même mené une enquête pour savoir comment les enseignants eux-mêmes voyaient la question. Alors, il y en a quand même 95% des enseignants qui estime que enseigner la gravité du changement climatique et ses effets, eh ben c'est important, mais, et il y a toujours un mais, il n'y en a que 33% qui se sentent capables d'expliquer correctement les effets du changement climatique sur leur région ou sur leur localité.
Eh bien, écoutez, il faut qu'ils viennent nous voir. C'est le but un peu des arènes que de parler du climat, les conséquences locales. Donc l'écologie à portée de main, c'est notre credo.
Alors, je vais vous en dire encore, je vais vous en remettre une couche. C'est que parmi ces enseignants, il y en a 55%, donc ça fait juste un peu plus.
La moitié.
Hein, à peu près, hein, on n'est pas très fort en maths, mais ça fait à peu près ça. 55% des enseignants qui déclarent avoir reçu une formation préalable sur le changement climatique. Et il y en a quand même 50%. Qui considèrent qu'ils ne sont pas vraiment outillés pour vraiment aborder à fond cette
matière. Donc on a encore du travail. Bah, écoute, c'est voilà. Parfait. Hein. On va maintenant donner la parole à Muriel. Muriel, co-présidente de France Nature Environnement Île-de-France. Donc effectivement, on est bien dans le local. Justement, les enseignants font partie de vos adhérents, font partie de vos cibles.
Tout à fait, les enseignants font partie de nos cibles et l'éducation à l'environnement est une de nos priorités. On participe d'ailleurs à un espace régional de concertation avec beaucoup d'autres associations comme le GREN Île-de-France.
Alors ça veut dire quoi le GREN ?
Le GREN Île-de-France, c'est un organisme de formation qui égrène toute une série de messages pour former les enseignants, les animateurs au développement durable et à l'environnement. Mmh. Voilà. J'aimerais vous parler de l'événement qui a été l'événement mondial cet été, qui était les JO Paris 2024.
Oui, hein. On peut pas brûler des Notre-Dame, des cathédrales tous les jours, quoi.
Alors ils ont publié récemment leur cocorico, un bilan financier qui a dépassé toutes leurs espérances.
Oui.
Ils ont aussi distillé leur bilan carbone. Hein. Mais ce bilan carbone, nous, on demande à voir plus en détail son contenu, parce que forcément, ils mettent en évidence les efforts d'économie circulaire, le fait qu'on n'a pas dans ces JO des éléphants blancs comme à Londres. Quand je dis éléphants blancs, vous voyez bien que c'est des équipements sportifs gigantesques qui ne servent plus à rien après.
On a limité
95% des équipements dans lesquels se sont déroulés les JO. Ils étaient déjà construits et donc on a limité un peu les dégâts à ce niveau-là. Et puis il y a eu, avec la construction du village olympique, un certain nombre d'utilisations de matériaux vertueux, etc. Ok, cocorico, on est très content, recyclage. Ceci dit, vous avez vu que le bilan carbone, même si il était beaucoup plus vertueux que pour les Jeux de Rio ou de Londres, il a quand même explosé à cause du trafic aérien. Et donc,
pas faire des JO avec uniquement des cyclistes locaux.
Non,
il faut bien venir.
Je pense que les shifters, c'est-à-dire le shift project que vous connaissez,
oui, sur le plateau de Saclay, on les invitera bientôt.
Dès le mois de juin, ils avaient alerté en disant est-ce que c'est pas ce concept n'est pas complètement dépassé. Est-ce que
le concept de quoi?
Le concept des Jeux Olympiques tels qu'ils sont actuellement.
C'est-à-dire les cinq continents réunis, faire venir tout le monde.
Voilà, on réunit tout le monde, même endroit. On dit d'abord, il faudrait. Parce que tous les ans, il y a des disciplines nouvelles. Hein, donc, on pourrait rester à un nombre de disciplines significatives.
Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez faire les JO en visioconférence?
Non, mais avoir des fan zones dans chaque continent. Hein, et pas obliger tous les gens à venir traverser, venir tout ça pour applaudir l'équipe machin, etc. Je pense que, nous sommes contre les JO dans les Alpes en 2030. Hein, je veux dire qu'il n'y aura plus de neige de toute façon. Je veux dire qu'on n'a pas craché dans la soupe. Le seul truc, France Nature Environnement a, au niveau national, attaqué Coca-Cola pour greenwashing et publicité mensongère, parce que en principe il y avait des fontaines qui distribuaient le Coca-Cola en fait derrière et on vidait les bouteilles en plastique dans les gobelets ou dans les fontaines, hein. Bon, donc je crois que là il faut rester. On ne crache pas dans la soupe.
Vous leur mettez quelle note à ces JO? Vous leur mettez quoi? La moyenne au moins, quand même.
C'est-à-dire que on considère que pour la Seine-Saint-Denis, ça a été un vrai plus. en termes d'équipement, de logements qui vont être... le village olympique va être reconverti, ça va être des logements. Je veux dire qu'on a changé l'image. Moi, j'ai vu les gens du conseil départemental Seine-Saint-Denis, ils m'ont dit, il y a une notoriété maintenant. Bon, alors le risque, c'est la gentrification. Hein. Bon, bien sûr. Mais moi, je dirais, c'est plutôt... si on pouvait concevoir à l'avenir des grands équipements et des grandes manifestations culturelles, sportives, avec toutes ces contraintes qu'on a cadrées à l'occasion des Jeux, ça serait déjà quelque chose. Que la méthode, qu'on anticipe le bilan carbone.
Alors, Muriel, j'ai deux questions. Un, la note. Combien vous leur mettez ? Alors j'ai compris que c'était peut mieux faire, mais c'est quoi ? C'est 10, c'est 15 ?
Moi, je mettrais 12.
12.
Voilà.
Et un gros peu mieux faire en rouge.
Un gros
en
peu
rouge.
Mieux faire en rouge sur...
souligné, barré, avec voilà. Des grands points d'exclamation.
Voilà.
OK,
voilà.
Mais bon, plus que la moyenne quand même, ça c'est voilà. Déjà bien. Et puis, bah, l'autre question, et les victoires. Vous nous avez parlé
des victoires de
FNE et des associations.
Oui, nos associations en Île-de-France... Il y a eu une vraie victoire qui est l'abandon d'un projet de 2x2 voies qui traversait tout le Val-d'Oise pour relier l'autoroute A1 à l'autoroute A15. Ça s'appelait le BIP, le boulevard intercommunal du Parisis. Et bien finalement, ils y ont renoncé parce qu'il y a une mobilisation absolument massive des associations. Et à la fin... tous ces projets sont des projets obsolètes, qui datent de 10-15 ans, et qu'on continue, c'est comme la 69.
Mais voilà. Justement, la semaine dernière, vous nous parliez du SDRIF. Ce BIP était dans le SDRIF de 2003
il était dans les tuyaux depuis une dizaine d'années, parce que c'est...
Mais il était sorti comment
il était sorti de l'esprit du Conseil départemental du Val-d'Oise, pour accélérer le transit en traversant des villes comme Montmorency ou d'autres qui n'ont absolument pas besoin. Maintenant, il y a des alternatives en termes de tram, en termes de transport en commun qui permettent...
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est un début de changement de culture, du tout voiture, on commence à le remettre en cause ?
Voilà. Et je pense que la mobilisation, il faut qu'elle se poursuive. Alors, il y a d'autres risques.
D'autres victoires, donc les écologistes ne perdent pas tout le temps. Donc c'est
non, nous... non. Mais ce sont les calculs économiques qui font que les élus ou les investisseurs renoncent.
Ah oui, c'est parce qu'ils se sont vraiment plantés qu'ils arrêtent. Ce n'est pas vous qui gagnez, c'est eux qui se plantent.
Voilà, c'est eux qui se plantent et ils sentent que la mobilisation de l'opinion publique est plus forte.
Et puis,
je voudrais parler d'une autre mobilisation. Imaginez à Nonville, en Seine-et-Marne, l'exploitation de champs pétroliers. Eh bien, voilà, il y a des beaux esprits qui considèrent qu'il faut faire sortir des puits de pétrole en Seine-et-Marne. Et donc, la mobilisation très forte qui a eu lieu, pour le moment, le projet n'est pas complètement validé. Et les menaces, elles sont réelles. C'est que, imaginez que sous ces champs de pétrole potentiel, il y a une nappe phréatique qui alimente tout le nord-est de Paris.
Donc ça, c'est une hypothèse.
C'est pas une hypothèse, elle est réelle, nappe phréatique.
D'accord.
Et donc, au moment où on est en train de promouvoir toutes les énergies renouvelables, imaginez exploiter le pétrole en Seine-et-Marne.
Oui, puis ça doit être des champs pétrolifères énormes, j'imagine. On devrait pouvoir alimenter quelques briquets.
Exactement.
Donc on est prêt à mettre
en balance
la sécurité d'approvisionnement de l'eau avec quelques barils.
Voilà, donc ces deux exemples, une 2x2 voies qui rime à rien et qui relie deux autoroutes et un projet de prospection et d'exploitation pétrolière, ces deux exemples du monde d'hier. Et on considère que grâce à la mobilisation des citoyens et de nos associations, on arrive à repousser ces projets. Et pour l'année 2025, on a... un grand sujet de campagne sur les arbres en ville et la biodiversité. Parce que on considère qu'il faut mettre vraiment l'accent sur la sauvegarde des espaces de nature, essentiellement, je dirais, à Paris et dans la première couronne, parce que c'est là où l'étalement urbain, dont je parlais la semaine dernière, est absolument essentiel.
Ça va de pair avec la végétalisation.
Voilà. Ouais. Mais d'accord. Il faut des arbres en pleine terre. Ça sert à rien de mettre des façades végétalisées. Bon, c'est mieux que rien, mais je veux dire que tous les scientifiques vous disent c'est l'arbre en pleine terre qui vous apporte de la fraîcheur. Et vous avez vu toutes les réflexions sur Paris à 40 degrés qui étaient conduites par la ville de Paris. Là aussi, on marche sur la tête.
Hein. Oui, bon, il n'y a pas, comment vous faites, pas si longtemps que ça, c'est-à-dire une trentaine d'années, les architectes qui ont fait la Défense ne parlaient que de minéralisation. Quand un provincial comme moi leur disait « Mais ils sont où les arbres ?» Je passais vraiment pour un plouc, quoi. Comme on nous dit, comme on disait. Eh bien, écoutez, ça annonce bien des nouvelles batailles, bien des grands sujets. Je crois qu'on va se revoir, Muriel.
Tout à fait.
Bah, écoutez, passez un joyeux Noël.
Et vous de même.
Merci beaucoup. Eh bien, donc on est toujours dans les arènes de l'écologie, naturellement. Et puis, notre invité nouveau, dont je vous ai annoncé la présence tout à l'heure, David Pierre de Cité Unifrance. Alors, pour vous, quel est le point culminant de cette année 2024?
Alors, point culminant, bon, je vais rappeler de quel... De quel endroit je parle aussi. Donc, je travaille pour un réseau de collectivités territoriales, un réseau de villes et régions françaises qui sont engagées en dehors des frontières. Et un des rôles de ce genre d'associations, de gouvernements locaux, comme on peut le dire de manière un peu générale, c'est aussi de voir comment se passe la gouvernance mondiale, comment les grandes décisions de ce monde sont prises, comment elles sont décidées. Et un des points... d'orgue, on va dire, de 2024, qui, de ce que j'en ai vu, est passé pas mal sous les radars, a été très très peu communiqué, c'est le fait qu'il y a eu un sommet de l'avenir.
C'est bien un point culminant, quand même.
Voilà, plutôt un point culminant, on peut dire. En septembre 2024, les 22 et 23 septembre 2024, à New York, a eu lieu ce sommet de l'avenir, donc où les chefs d'État des 193 nations qui font partie des Nations Unies se sont réunis, mais au-delà de ça, avec beaucoup d'autres acteurs de la société civile, etc., avec des journées thématiques qui avaient lieu avant, pour décider, pour s'engager, pour voter un pacte sur l'avenir, le pacte de l'avenir, c'est comme ça qu'il s'appelle, on va dire partir sur de meilleures bases, reconnaître les difficultés rencontrées et partir sur de bonnes bases, pour l'avenir de la planète, en fait, on est juste là. Donc ça fait beaucoup, c'était ambitieux. Après, on sera tous d'accord pour dire que c'est peut-être un petit peu nécessaire d'avancer sur ces questions. Ce qu'on sait peu, hélas, c'est que ces discussions ont vraiment lieu. Donc il y a un agenda mondial sur le développement durable, ce dont on parle beaucoup dans ces arènes. Un agenda mondial qui, depuis 2015, prend la forme des objectifs de développement durable, dans lesquels on retrouve des engagements sur le climat, sur la question de l'eau, sur la question de la biodiversité, sur la question du mieux vivre en ville aussi, des villes durables, etc., la question des économies circulaires. Donc ça rejoint toute cette question du développement durable, du mieux vivre dans la durabilité. Et depuis 2015, avec l'objectif 2030, agenda 2030, ces objectifs de développement durable donnent une ligne directrice. Et aux petits échelons, à l'échelon des gouvernements locaux, donc c'est pour ça que j'en parle depuis mon regard de Cité Unifrance, mais jusqu'aux États. La France s'est engagée dans cet agenda 2030.
Oui, en septembre, l'avenir en France, c'était ce qu'on va voir un Premier ministre.
Mais exactement, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles c'est passé à la trappe, en effet, dans l'agenda national. Mais ça reste pour moi intéressant d'en parler, parce qu'on le sait peu qu'il y a eu ça, et que ce vote, enfin ce pacte de l'avenir a été voté. C'est un peu dommage que beaucoup des citoyens du monde, qui soit de citoyens, de collectivités territoriales, de pays, tout ça ne le sache pas. Et c'est d'autant plus dommage, et c'est pour ça que j'en parle, encore une fois, de mon point de vue de réseau de collectivités territoriales, c'est qu'il y avait une journée spécifique pour les collectivités territoriales, donc pour les villes, les départements, les régions, quel que soit le nom qu'on leur donne à travers le monde. Et la maire de Paris, par exemple, été à New York à l'occasion de ce sommet. Également des élus de Montpellier, des élus du département de l'Aude, de Bordeaux, pour porter justement la voix des gouvernements locaux, la voix de la question de l'aménagement local, des services publics locaux, de ce qui touche vraiment la vie des citoyens, de là où sont mises en œuvre les actions, les changements pour aller vers cette durabilité.
Quand on parle d'avenir, on parle aussi de jeunesse, de facto. Comment les jeunes générations, nos enfants, pourraient se saisir de ces sujets, regarder, voir ce qu'ils peuvent faire, comment ils vont pouvoir avancer, quoi.
Mais ce pourquoi il est intéressant, à mon sens, que les collectivités territoriales, que les villes soient de plus en plus concernées dans cette gouvernance mondiale, plus entendue notamment, c'est parce que c'est elle qui s'occupe des questions d'éducation, c'est elle qui s'occupe des questions d'écoles municipales, voilà, les écoles municipales bien sûr, mais aussi les départements ou les régions s'occupant des collèges, des lycées, donc c'est les collectivités territoriales aussi qui ont cette responsabilité de l'éducation. Et c'est aussi elles qui peuvent porter des programmes qui existent aujourd'hui, des programmes de mobilité de jeunes, où des jeunes vont, dans leur parcours de professionnalisation, partir à l'étranger, partir en volontariat de solidarité notamment, ou en volontariat de service civique. C'est des choses qui sont portées par les collectivités territoriales pour justement donner une capacité de démarrage, d'action à des jeunes pour s'impliquer localement ailleurs, et des fois aussi pour accueillir localement en France des jeunes d'autres pays, faire ces croisements. Donc c'est pour ça que pour moi c'était un des gros enjeux de cette année, c'est que les collectivités territoriales, que les villes et régions soient mieux entendues dans ces grandes instances, qu'elles aient un peu plus de voix, pour justement que leurs préoccupations sur l'éducation, leurs préoccupations sur l'aménagement du territoire, la voirie, la mobilité douce, etc., puissent être mieux entendues, mieux considérées par les grandes nations et dans leur grand concert.
Alors, David Pierre, j'ai une demande un peu particulière. Je déjeunais ce midi avec ma fille et elle me disait « Dans 2 ans, papa, je veux partir à l'étranger, apprendre l'anglais, découvrir des choses. Les questions d'environnement l'intéressent également, les questions d'avenir. Quelle est la porte d'entrée pour justement... Est-ce que tu peux lui offrir une porte d'entrée pour regarder l'avenir ? Comment on fait ? Il faut aller voir sur un site internet ? Faut téléphoner, envoyer un courrier
Il y a une très belle plateforme qui s'appelle France Volontaire, qui travaille justement à centraliser toutes ces options qu'ont les volontariats. Et là, ce n'est pas seulement la jeunesse d'ailleurs, parce qu'on peut être volontaire, on peut faire un VSI à 60 ans, à 65 ans, il n'y a pas de problème d'âge par rapport à ce type d'engagement. Et il y a aussi d'autres types de volontariats qui sont, donc comme ça permet de parler aux auditeurs et auditrices de tout âge, mais aussi sur des systèmes de congés solidaires encadrés avec les entreprises, etc. Ça, c'est tout ce qui va s'appliquer à tout le monde. Pour la jeunesse spécifiquement, il existe les systèmes de volontariat de service civique qui, eux, s'adressent aux jeunes de moins de 25 ans, ou jusqu'à 25 ans révolus, je crois. Faut regarder sur le site. Mais l'agence du service civique qui travaille avec France Volontaire là-dessus gère ses missions. On peut aller sur le site de l'agence du service civique pour voir les missions qui existent pour les moins de 25 ans. Et il y a des missions à l'international, des missions de volontariat, de solidarité, ou qui peuvent être d'ailleurs pas seulement pour la solidarité. Il existe d'autres dispositifs de volontariat. La France Volontaire aura ce genre d'informations aussi. Des volontariats internationaux en administration, les VIA, des volontariats internationaux en entreprise, des VIE, là aussi limités en termes d'âge pour les moins de 27 ans, mais qui peuvent offrir pour des jeunes diplômés la possibilité de justement s'investir des missions à l'étranger.
Manifestement, tu veux revenir, tu veux faire une émission sur la jeunesse et l'écologie à l'international.
Je peux en parler, pour avoir passé moi-même... fait un stage grâce à un lycée agricole à l'étranger qui m'avait ouvert.
Où ça, à l'étranger, alors?
Au Yémen.
D'accord, tu choisis tes destinations.
Oui, c'était avant tout ça. Mais je suis heureux d'y être allé avant tout ça, d'ailleurs. Pays absolument somptueux et dans un état terrible aujourd'hui. Mais j'ai fait aussi 4 ans de volontariat de solidarité internationale. Donc c'est un dispositif que je connais bien. Et pour avoir encadré des volontariats de service civique, c'est un dispositif génial, même pour des jeunes qui sortent tout juste de bac. À partir de 18 ans, on peut. Et ça peut rentrer sur ce qui se fait peu en France, ce qui se fait plus en Allemagne, par exemple, sur ces idées d'année de césure, où pendant 6 mois, on va partir découvrir... Et et se découvrir, mais aussi avoir la possibilité d'être utile quelque part, et notamment dans des territoires où on ne va pas forcément parler la langue, etc. Donc ça fait des chouettes introductions dans la vie active, et pour se découvrir soi et savoir du coup quelle branche ensuite professionnelle on veut aller chercher, quel diplôme on veut aller chercher.
On va la mettre quand cette émission? En mars, en avril? C'est quand le bon moment pour parler?
Quand vous voulez de moi.
Bon. Okay.
Mais j'essaierai de trouver d'autres témoignages histoire de ne pas monopoliser
non
plus.
On prend note, de toute manière, on fera le programme, dont on annoncera un programme sur 2025 pour le 15 janvier. Donc voilà, j'anticipe déjà sur l'annonce de fin. Et puis on va pas tarder donc j'ai 20 secondes pour conclure sur ce sujet.
Oui, alors justement, voilà. C'était le sujet.
Et vas-y Ben.
Jusqu'à quel point est-ce que ce sommet de l'avenir, est-ce qu'au fond il a été pas du tout médiatisé? Est-ce qu'il a été quand même pris en compte? Est-ce qu'il y a eu une façon de... Moi j'ai l'impression que si c'est relié avec les ODD, c'est quelque chose d'assez intéressant. Même si sur les objectifs du développement durable...
On est en retard.
Oui, ouais, et puis on est en retard sur le conducteur de l'émission. Si je suis désolé, on va pouvoir... comment on gère ça alors, hein? On lance la musique, on continue un petit peu. Allez Ben.
Non, mais moi j'aimerais bien continuer. Parce que
mais t'aimes pas la musique.
Très rapidement.
C'est les objectifs du millénaire pour le développement au départ. Ça a ensuite été changé à partir... de
2015 vers les objectifs de développement durable,
pour dire qu'on avait les mêmes problèmes au nord et au sud. Oui. Je veux dire, c'était complètement subversif au sein même des Nations Unies de commencer à dire que les problèmes aussi bien d'eau, l'ODD 6, que les problèmes de sécurité, ODD 16, eh ben, c'est vrai, quelle que soit la latitude dans laquelle on se trouve sur la planète. Et je trouve que là, les Nations Unies ont vraiment fait du bon boulot. Alors ça, c'était ma deuxième question, c'est si ça a été très très mal publicisé ou diffusé en France, est-ce que c'est dû à une espèce de particularité française, ou est-ce qu'au niveau de l'ONU, on ne sait pas vraiment comment communiquer? Ou les deux?
J'aimerais avoir la réponse, j'imagine que c'est un peu les deux. La magie de cet agenda 2030, et c'est pour remettre un petit peu le pouvoir aussi dans les mains des personnes qui nous écoutent, c'est que c'est un agenda qui n'est pas seulement engager la responsabilité des États, mais c'est aussi, il y a des agendas 2030 dans toutes les autres structures, comme il y avait des agendas 2021, ou les agendas 21 dans d'autres structures, et c'est des choses dont les pouvoirs publics sont redevables. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on peut aller voir nos élus locaux et leur dire, il en est où l'agenda 2030? Certaines collectivités le mettent vraiment en œuvre dans leur programme de planification, certainement comme Paris 2040, tout ça. Mais il y a un pouvoir citoyen là-dessus de redevabilité, puisque l'État français est engagé. C'est dur d'aller toquer à la porte de l'État, mais les collectivités elles-mêmes aussi.
Ok, je pense que ça fait une excellente conclusion. Allez, on va lancer la musique.
Agrandis-moi, force l'affaire, veux. Réponds-moi, inspire mes peurs. Porte ma croix, juste quelques heures, et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concile la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes, attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave, que c'est que des Esquimaux, des bobos. Dis-moi que tout est possible. Si à ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive. Je réveille à l'espoir. J'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive. Qui te disent que c'est foutu, tu les fais taire. DTR, change, invente, arrache, crée, charge, cogne, balafre. Dès qu'ils te disent que c'est foutu, tu les fais taire. Change, invente, arrache, crée, charge, cogne, balafre. Dès qu'ils te disent que c'est foutu, tu les fais taire. Change, invente, arrache, crée, charge, cogne, balafre. Dès qu'ils te disent que c'est foutu, tu les fais taire. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive.
Eh bien, Ben Mazoué arrive, tant mieux. Puis aussi Aurélie, voilà. Donc Aurélie va nous parler de. Tu m'avais parlé de la Suisse, mais bon, je crois qu'il n'y a pas que la Suisse qui t'intéresse dans ce bilan de l'année 2024. Eh bien, Jean, on te donne la parole.
Merci. Effectivement, pour moi, l'année 2024, elle se termine par trois COP. On a eu une succession de la COP biodiversité en octobre en Colombie, ensuite la COP climat à Bakou en novembre, et enfin, on en a moins parlé, mais il y a eu la COP désertification à Riyad en Arabie Saoudite en décembre. Ces trois COP, elles se sont un peu déroulées dans la souffrance et montrant vraiment l'impossibilité du Nord et du Sud de réussir à s'entendre, enfin la très grande difficulté à s'entendre avec des décisions qui ont été prises, qui ont permis de sauver un peu la face, mais quand même aussi des trois COP qui ont été en partie des échecs. Mais face à cette difficulté donc, du multilatéralisme, il y a un autre sujet qui est celui de la justice climatique qui a beaucoup avancé en 2024 et qui pourrait aussi continuer à être important en 2025. Alors effectivement, je parlais de la Suisse parce qu'il y a eu une décision très importante de la Cour européenne des droits de l'homme en avril dernier qui a condamné le pays pour inaction climatique. Ce qui est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est une première. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une association donc qui s'appelle les Climat Seniorinnen, donc des femmes âgées, suisse, une association de 2500 femmes, qui ont dit, en ne respectant pas ces engagements et en n'ayant pas des engagements climatiques suffisants, la Suisse atteint à des droits humains, aux droits de la vie, au respect de la vie privée, de la vie familiale. Et voilà, la CEDH a dit « Oui, vous avez raison, la Suisse devrait vous protéger ». En ayant des objectifs climatiques ambitieux, en ayant une politique climat, etc. Et elle ne le fait pas. Donc voilà, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le pays à renforcer son action climatique.
Pour protéger les mamies ou pour protéger les petits-enfants des mamies?
Les deux. C'est ça qui est intéressant, c'était de dire effectivement, votre pays ne vous protège pas et vous êtes, et vous, personne vulnérable, vous avez un statut, on vous reconnaît un statut de victime. Et ce qui est important, c'est, il y a eu cette décision pour la Suisse. Alors, le Parlement suisse a dit, nous, on n'a qu'à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Mais enfin, ce serait quand même un peu délicat. Et surtout, ça veut dire que l'ensemble des pays qui en sont membres, donc notamment les pays de l'Union européenne...
Le Conseil de l'Europe.
Oui, du Conseil de l'Europe, merci. Pourraient aussi être observés sur leur action climatique. Enfin, il n'y a pas de raison que la CEDH ne vienne pas voir aussi les autres pays membres du Conseil de l'Europe pour dire, sur le climat...
Donc parce que les Suisses, c'est les pires ou pas les pires?
Je ne saurais pas dire si c'est vraiment les pires ou pas les pires, mais ils ne sont pas forcément plus mauvais que d'autres. Effectivement, leur politique climatique a un peu de plomb dans l'aile, mais enfin, si on regarde l'ensemble... quelque part, l'Union européenne a une trajectoire climatique qui est plus ambitieuse, donc normalement, les 27 ont des objectifs plus avancés que la Suisse, mais enfin, si on allait regarder de près chaque pays, on aurait sans doute des choses à redire. Voilà, donc ça, c'est un signal intéressant. Et ce que je trouve important, c'est qu'en parallèle à cette décision, il y a trois tribunaux internationaux qui, en 2024, ont rendu ou en 2025, vont rendre des avis consultatifs relatifs au climat. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Donc là aussi, c'était une première, mais en mai 2024, le Tribunal international du droit de la mer, qui est une juridiction de l'ONU, a rendu un avis disant que les émissions de gaz à effet de serre représentent une pollution du milieu marin et que donc les États ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour protéger l'environnement marin des méfaits du changement climatique. Et ça, c'était la première fois qu'une juridiction internationale donnait un avis sur le changement climatique.
Ça veut dire qu'on est en train de créer des outils, entre guillemets, pour pouvoir appréhender les combats du
futur,
les sanctionner, mais surtout pouvoir peut-être agir. Grosso modo, ça donne des moyens aux militants ou aux jeunes dont on parlait tout à l'heure de pouvoir faire quelque chose.
Exactement.
Et c'est ça qui peut être derrière cette espèce de, entre guillemets, avec ce pas Aurélie, mais de jargon juridique, on obtient des nouveaux droits, des nouveaux moyens d'action.
Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau parce que quand, par exemple, le Tribunal international du droit de la mer a été créé, il ne parlait pas de climat. C'était vraiment pour dire voilà comment doivent être gérés les pipelines, la pêche, etc. Et maintenant, il se prononce sur cette question aussi la pollution des océans et du fait que les États en sont responsables. Et ça vient renforcer vraiment la responsabilité des États. Et ce qui est intéressant aussi en lien avec ça, c'est quelque chose qui a été pas énormément médiatisé en décembre, c'est ce qui s'est passé à la Cour internationale de justice de La Haye, où du 2 au 13 décembre, il y a une centaine d'États qui sont venus, je ne sais pas si vous avez regardé les audiences, mais c'était vraiment intéressant à regarder, il y a une centaine de pays qui se sont succédés à la barre de la Cour internationale de justice pour parler de leurs obligations climatiques. Et ça, c'était très intéressant parce que, autant dans les COP, on ne voit pas exactement ce qui se passe, qui dit quoi, ça reste un peu silencieux, autant là, c'était filmé, et je pense qu'on peut regarder les enregistrements. Et donc, on a une centaine de pays qui sont venus dire « voilà, moi, ce que je pense de ma responsabilité climatique, etc. » Pour expliquer le pourquoi du comment, c'est les îles du Vanuatu qui ont demandé à ce qu'il y ait cette série d'audiences, et ont demandé donc à faire adopter une résolution par l'Assemblée générale des Nations Unies. Les États ont été d'accord pour qu'il y ait donc cette résolution. On a eu un peu deux groupes de pays qui sont venus, qui sont venus s'affronter. Des pays qui se disent vulnérables au changement climatique, même si en fait on l'est tous, mais des petites îles qui sont vraiment le plus vite menacées, pour dire vous venez aux COP, mais en fait vos engagements sont insuffisants, vous faites traîner les choses, vous voulez pas sortir des énergies fossiles, etc. Il y a une urgence, etc. Les États ont une responsabilité qui doit être plus importante. Et de dire, oui, il y a les COP, mais au-delà de ça, il y a un droit qui s'applique, un droit de l'environnement, un droit des droits humains. Et nous, on veut que la Cour de justice internationale répondent à une question, la question à laquelle la Cour internationale de justice va devoir répondre, c'est quelles sont véritablement les obligations juridiques des États en matière de protection climatique et quelles conséquences juridiques est-ce qu'il peut y avoir si ces États ne respectent pas leurs engagements.
D'accord. Là aussi, on est dans la fabrication de nouveaux outils. On est en train de voir apparaître des boîtes à outils. Alors justement, on disait lors de la présentation de l'émission des arènes de l'écologie qu'on voulait rendre l'écologie préhensible, eh bien on est tout à fait dans le sujet là.
Ah, moi,
il va falloir faire
une
boîte à outils, Ben.
Est-ce que c'est seulement de la responsabilité des États quand on pense à ce qui se passe au niveau des océans? Qui sont les principaux responsables des 90% de transports maritimes? C'est des entreprises privées.
Oui, mais en fait...
C'était le Pentagone à un moment donné, mais au fond, la plupart des tankers appartiennent à des entreprises privées.
Mais tout ça, ça va se rediriger vers les entreprises, parce que quand un État... Si on dit, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, Vous devez renforcer vos engagements climatiques, vous devez respecter l'engagement à ne pas dépasser 1,5 degré de changement climatique. Ces États vont aussi devoir répercuter ces obligations sur les entreprises qui sont dans leur pays. Donc ça a un impact sur les entreprises. Et par ailleurs, dans tout le champ de la justice climatique, au-delà de ces décisions qui sont importantes parce qu'elles ont une portée internationale devant des cours de justice importantes, il y a aussi tout un tas de procès traînent devant la justice, entre guillemets, des entreprises. Ça, il y en a de plus en plus. Alors, on peut parler, par exemple, FNE et à Coca-Cola. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres exemples.
Mais bon, grosso modo, tu nous donnes aussi un nouveau sujet d'émission. Ça va être l'écologie au travail, l'écologie et les entreprises. Il y a mille et un sujets à appréhender. Effectivement, l'écologie, ça se prend par tous les bouts. On va pouvoir passer à la chronique et puis on va programmer une émission sur l'écologie et les entreprises. Dans les arènes de l'écologie, le meilleur moyen de passer Noël en famille. Aujourd'hui, là, on va passer maintenant à la chronique de Brume, qui est spécialiste de la concertation écologique et qui, je crois, s'est intéressée à une initiative dans les Deux-Sèvres, le village de l'eau. Brume, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Pour cette seconde chronique, on m'a demandé de parler d'un événement marquant de 2024 en termes de participation citoyenne en écologie. Autant vous dire que j'ai pataugé un moment pour choisir. Mais une initiative m'est revenue en tête parce qu'elle a su remettre l'eau au moulin, là où tout dialogue semblait asséché. Et bien sûr, je vous parle du village de l'eau, organisé du 16 au 21 juillet à Mel, dans les Deux-Sèvres. C'est un village éphémère qui s'est structuré autour d'un enjeu bouillonnant, la gestion de l'eau, et en particulier les controversées mégabassines. Donc je vous plante un peu le décor. Depuis plusieurs années, les mégabassines sont au cœur des tensions, et particulièrement en Poitou-Charentes, où c'est près de 200 projets qui sont prévus par l'État pour les années à venir. Les mégabassines, non, ce ne sont pas des cures thermales pour baleines bleues. mais ce sont des réserves qui stockent l'eau des nappes phréatiques en hiver pour irriguer les cultures en été. Pour leurs partisans, elles offrent une réponse aux sécheresses croissantes. Pour leurs opposants, elles représentent plutôt une maladaptation au changement climatique, fragilisant l'équilibre écologique et provoquant un accaparement de l'eau au profit d'une minorité. Les opposants dénoncent également une prise de décision non démocratique dominée par les préfets et la FNSEA. Malgré les mobilisations locales, les projets continuent d'avancer et les comités de bassin censés représenter les acteurs du territoire ne semblent avoir qu'un rôle consultatif. Des citoyens et des associations ont donc demandé un moratoire pour suspendre ces projets dans le Poitou et permettre de réouvrir le débat. Mais ce moratoire leur a été refusé. Et face à ce refus de discussion, la contestation s'est intensifiée. Souvenez-vous de Sainte-Soline en 2023. Une manifestation contre un projet de méga-bassine marquée par des affrontements violents qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais qui ont surtout noyé le fond du débat et rendu impossible toute discussion avec les autorités publiques. Face à ce blocage, des collectifs comme Bassine Non Merci, les soulèvements de la terre ou encore la Confédération paysanne ont décidé de prendre une autre voie et de créer leur propre espace de dialogue, leur propre arène de discussion. Donc avec le soutien du maire écologiste de Mel, Sylvain Griffaut, ils ont construit ce village de l'eau où la gestion de cette ressource est devenue la vedette d'un débat bien irrigué. Des chercheurs, des paysans, des élus locaux, mais aussi des habitants, ils ont été invités pour imaginer collectivement des alternatives aux méga-bassines et réouvrir le débat sur la gestion de l'eau. Le temps d'une semaine estivale, les terrains prêtés par la commune ont pris des allures d'agora festive, recouvertes de chapiteaux et de tentes qui ont accueilli des discussions, des conférences sur divers sujets, comme par exemple le partage équitable de l'eau sur un territoire, les alternatives agricoles comme l'agroécologie ou la sobriété hydrique. Et finalement, c'est environ 7000 participants et participantes de France et d'ailleurs qui sont venus peupler ce village éphémère. Bien sûr, Village de l'eau n'a pas résolu le problème des méga-bassines, mais il a tout de même permis de faire parler du sujet. Là où Sainte-Soline avait laissé une image de lutte sous pression et de violence, le village a permis de recentrer un peu plus la médiatisation sur le fond du sujet et sur les solutions alternatives aux méga-bassines. Et cette discussion, elle pourrait également servir à soutenir la lutte qui se joue en parallèle sur le terrain juridique. Il existe des associations comme Nature Environnement 17 qui continuent de contester ces projets devant les tribunaux, avec déjà quelques victoires obtenues, comme par exemple l'annulation de certains volumes de prélèvements jugés excessifs. Mais alors, au final, que restera-t-il de ce village de l'eau? Peut-être une conviction. Lorsque le débat est confisqué, les citoyens et citoyennes savent créer leur propre rivière pour laisser les idées couler. Ils prouvent qu'il est encore possible de discuter, de réfléchir et d'agir ensemble, même face à un système perçu comme verrouillé. Le village de l'eau n'a pas changé le monde en 6 jours. Mais il a rappelé que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des institutions et qu'elle peut toujours renaître là où les citoyens, citoyennes, les élus, associations choisissent de la faire vivre. Rendez-vous dans une prochaine chronique pour découvrir d'autres arènes de l'écologie où les citoyens et citoyennes font des vagues.
Eh bien, merci Brume. Et d'ailleurs, merci à tous nos invités de s'être déplacés un jour de Noël quand même. Faut le faire, quoi. Et puis surtout, alors vous ne reviendrez pas pour le premier de l'an, mais bon, ce sera l'émission, notre prochaine émission, ce sera le premier de l'an, et ce sera toujours une rétrospective 2024. Le 8 janvier, on aura par contre un récit de voyage sur Paris-Bakou à vélo pour la COP 29 avec Guillaume qui revient de Bakou, qui est revenu de Bakou. Et puis le 15, on fera le programme 2025. Et puis le 22, le surlendemain de la prise du retour de Trump aux affaires, on ouvrira un premier débat sur comment résister au backlash, au fameux retour de bâton écologique. Et puis, je pense qu'il nous faudra deux émissions pour traiter le sujet. Bon, il me reste à rappeler que sur Aligre FM, on peut participer aux dons, au financement de la radio. D'ailleurs, on vous prépare une petite surprise à ce propos, mais bon, on en parlera la semaine prochaine. Et puis, il me reste naturellement à remercier la technique, à Armand, qui s'est déplacé un jour de Noël pour venir nous aider à vous informer, à essayer de rendre cette fameuse écologie plus préhensible, un moyen de la prendre en main, parce que notre avenir, il va falloir se le construire nous-mêmes. Eh bien, écoutez, joyeux Noël, bonne fête, bonne trêve des confiseurs, bonnes vacances, et puis bientôt à l'année prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.